Radio Capi, grand témoin. Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Élise Mouimouzi, grande militante pour la cause de la femme congolaise. Elle est actuellement questeur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante. Elle est ancienne secrétaire générale du Comité national Femmes et Développement, CONAFED. Madame Mouimouzi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour madame.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre combat pour la cause de la femme congolaise. Nous allons parler de votre parcours jusqu'à vous retrouver aujourd'hui à la Commission électorale nationale indépendante. Vous nous direz comment vous avez fait pour arriver jusque-là. Alors, on va commencer par une petite biographie de vous. Vous êtes né où et quand?
Je suis né à Bukavu en 1955.
Vous êtes mariée, mère de trois enfants. Oui. Et c'est à Bukavu où vous faites vos études primaires et secondaires?
Oui, j'ai fait les études primaires au lycée Ouima, primaire et secondaire au lycée Ouima, pensionnat Albert Ier avant. Et après cela, je suis venue pour faire l'université à l'ISP Gombe d'abord, puis à l'IPN ensuite.
Mais pourquoi vous n'êtes pas restée à Bukavu pour faire l'université?
En fait, curieusement, je ne voulais pas faire la pédagogie, mais je me suis retrouvée à Kinshasa pour faire les études de droit, mais je me suis retrouvée finalement en pédagogie à l'ISP Gombe.
Alors parlons de votre enfance à Bukavu. Quel souvenir vous gardez de cette enfance à Bukavu?
À Bukavu, j'ai quand même eu une enfance quand même assez agréable, et je pense que je faisais l'école avec mes amis. Et que j'ai eu la chance de retrouver quand j'ai organisé en 2010 la marche mondiale des femmes à Bukavu. J'ai reconnu certaines, on a quand même pris de l'âge.
Vous avez passé des bons moments quand même à Bukavu?
Oui, des bons moments, mais des moments aussi de travail que je n'ai pas eu le temps vraiment de causer avec mes amis comme d'habitude. Mais j'étais une petite xavérienne aussi à côté de ça. J'ai milité beaucoup dans les mouvements, toute jeune que j'étais. Donc à 5 ans déjà, j'avais une petite équipe avec qu'on appelait des joyeuses à l'époque. Donc j'ai dansé beaucoup, chanté beaucoup.
À l'église ou dans les manifestations?
Dans les manifestations, j'organisais mon petit groupe.
C'est que j'ai À 5 ans déjà?
À 5 ans. À 5 ans, tellement j'étais turbulente que papa voulait toujours me mettre en dehors pour qu'on me fatigue un peu plus, afin que quand j'arrive à la maison, je puisse dormir. Sinon, j'étais pleine d'énergie, je ne sais pas trop pourquoi. Et avec ça, en tout cas, ça m'a beaucoup amusé, même à 7 ans, 8 ans, tout ça, toute l'école primaire, tout ce que j'apprenais à l'école, j'apprenais aussi à mon équipe. Même, j'allais même dans l'équipe rivale. Pour quand on avait des manifestations concurrentielles, quand je voyais que de l'autre côté mes amis dansaient, et j'ai quitté mon équipe pour aller aussi renforcer l'autre équipe, ce qui me valait quelques coups de correction lorsque mes supérieurs voyaient que je venais donner la victoire à une autre équipe. Au moins on pouvait gagner parce qu'on était rival, mais je pouvais pas comprendre qu'en jouant avec eux j'allais leur donner la victoire.
On peut dire que vous avez grandi dans de bonnes conditions.
Oui, tout de même, oui, mais bon, jusqu'à 9 ans, parce qu'à ce moment-là, mon père, qui était un grand commerçant de l'époque, il a été tué, puis nous avons connu des difficultés. Bon, on a étudié avec les efforts du travail de ma mère, et ça a été quand même assez dur, parce qu'on a perdu tout, presque tout. On nous a volé plus de 7 fois successivement, donc avec les rébellions qui ont suivi, bon, jusqu'à ce qu'on puisse perdre tous les capitales que les papas avaient laissés.
Alors parlez-nous un peu de la ville de Bukavu. On nous dit que c'était une très belle ville avant la guerre.
Oui, c'était une très très belle ville. On vivait au bord du lac. Mais le fait qu'on devenait orpheline de père, que ma mère aussi, qui était un enfant unique, avait du mal vraiment à travailler pour 10 enfants, donc ça devenait une vie quand même assez compliquée pour nous. Mais l'essentiel, c'est que nos sœurs aînées, au lieu de continuer dans les études, ils se sont mariés pour nous aider, nous, à étudier. Et bon, je pense qu'ils ne regrettent pas aujourd'hui d'avoir que nous avons quand même bien étudié, bien avancé. Et qu'aujourd'hui, je me suis donné pour la cause des femmes. C'est la raison pour laquelle je travaille quand même beaucoup. Pour que je ne puisse pas, que mes enfants ne puissent pas avoir la même vie.
Vous avez quitté Bukavu pour venir faire l'université à Kinshasa. Vous avez commencé par l'ISP Gombe. Vous avez fait la pédagogie pour parachever vos études à l'UPEN. Actuellement, c'est UPEN. Avant, c'était IPEN, Institut Pédagogique National. Où vous êtes retenue d'abord comme assistante. Vous étiez très appliquée.
Très, très appliquée. Dès que j'aimais beaucoup l'école, je voulais bien aller à l'école. Et lorsque je suis arrivée à l'école, j'ai beaucoup étudié, donc je ne perdais pas le temps vraiment pour pouvoir connaître. Des fois, à la récréation, moi, je restais dans la classe pour travailler, ce que le professeur venait de donner. Mais quand je suis arrivée à l'ISP Gombe, ça a été toujours le même engouement. Mais je suis venue à Kinshasa pas pour faire l'ISP Gombe. Je suis venue à Kinshasa soit pour faire les études de droit, soit pour faire l'économie, mais mon nom n'est pas sorti sur la liste du campus. C'est comme ça que j'ai été vraiment orientée vers l'ISP Gombe, parce que c'est là où j'ai trouvé une place. Et j'ai fait les études d'histoire. Et après ça, j'ai eu des distinctions tous les parcours. Et à la fin, donc, je suis allée à l'IPEN. Et la première fois où je vais dans une école mixte, c'était très amusant de travailler vraiment avec les garçons. Mais à la fin de l'année, aussi, j'ai eu des distinctions et on m'a retenue directement comme assistante à l'IPEN. Je n'avais que 22 ans. Et bon, c'est pas peu, c'est l'âge où il faut terminer.
Mais
et comme
ans,
chez nous,
oui.
Maintenant, on termine à 27 ans, 25 ans, mais moi, je finis à 22 ans. Et là, j'ai commencé déjà le travail à l'IPN. Et j'étais tellement maigre, j'avais pesé 47 kilos. Et il y avait des étudiants assez costauds. Et pour ne pas vraiment, pour cacher un peu ma taille, mon état, je les couvrais avec la connaissance. Ça veut dire que j'ai donné des cours de façon magistrale, donc pas de papier,
c'était facile,
pas de
le contact avec les étudiants.
Oui, je n'aimais pas les premières années et le professeur qui m'encadrait avait compris que je ne voulais pas vraiment rester longtemps dans les premiers gradués parce que ce sont des gens qui viennent de tous côtés, qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont à l'université, qui font beaucoup de bruit, qui chahutent beaucoup. Mais quand ils sentent que vous connaissez, ils se disent « mais hey, ils n'ont pas triché donc ». Mais j'ai beaucoup aimé quand je suis dans les classes comme à partir du troisième grade ou à première licence. Vous voyez des gens qui sont responsables, qui comprennent, qui viennent vraiment pour travailler. Et là, ça allait beaucoup mieux. Mm-hmm. Et j'ai pas fait ça très longtemps puisque après ça, je suis allée aux études en Europe. Je me suis mariée et mon mari a une bourse et nous sommes partis en Belgique. Et avant de partir, j'ai publié des ouvrages et c'est là où je suis passée chef des travaux. Comme je n'avais pas encore fait 4 ans à l'université, on ne voulait pas publier. On attendait que les années donc passent pour qu'on publie, que je puisse jouir de, quand même de mon titre de chef des travaux. Donc 2 ans après, j'ai publié, je suis devenue chef des travaux. Mais il fallait être chef des travaux 4 ans plus tard. Uh-huh. Mais j'avais déjà publié, donc j'étais en ordre de repasser chef des travaux, ce qui a été fait.
Alors vous avez préféré vous limiter à chef des travaux ou bien vous aviez des ambitions d'aller plus loin, de pousser plus loin pour devenir professeur?
Mon mari m'a poussé à devenir professeur, mais ça ne m'intéressait plus. Je sentais que je voulais faire autre chose. Et même à cela, je me suis inscrite à l'université à Louvain-la-Neuve, où j'ai fait l'économie appliquée gestion. J'ai changé carrément pour rattraper ce que j'ai désiré faire au départ. Donc, j'ai fait l'économie appliquée gestion. Et j'ai fait ça à Louvain-la-Neuve. J'ai le diplôme et j'ai fait la distinction. Et là, je me suis dit, non, je vais créer une entreprise à la fin, parce que j'ai senti qu'il fallait vraiment faire une entreprise. Quand je suis arrivée, je n'avais pas de capital. Et les banques ici ne prêtent pas pour commencer. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'engager à autre chose qui est plus sociale. Je me suis engagée dans les ONG.
Donc, c'est à votre tour de la Belgique?
Vous avez... À mon retour, donc, pendant mon séjour en Belgique, j'ai vu des femmes qui venaient de l'Amérique latine,
ouais,
qui ont beaucoup travaillé pour les causes des femmes et qui venaient avec leurs diapositives nous montrer le travail qu'ils venaient de faire. Vous voyez des femmes qui ont construit des ponts, qui ont électrifié tout un quartier, toute une cité, qui ont construit des maisons pour les pauvres. Et j'ai senti que j'aimais faire ça. Et je voulais faire la même chose quand j'arrive dans mon pays. Heureusement, je suis arrivé ici en 91, il y avait le pillage. Et j'ai vu combien les gens souffraient. Je me suis dit, je vais me donner pour défendre la cause des femmes. Et j'ai senti que les femmes étaient pleines d'énergie. Les femmes avaient beaucoup de force et les femmes étaient capables de beaucoup de choses. Et pendant les pillages, lorsque ce que nous avons vécu avec les associations à la base, c'est qu'on sentait, on voyait les capacités des femmes à nourrir la famille sans vraiment beaucoup de moyens, sans avoir beaucoup de moyens. Et ça nous a amené à initier des activités avec des milieux pauvres, les regrouper, les organiser pour que les femmes apprennent à faire quelque chose.
Les milieux pauvres, c'est-à-dire vous êtes allés dans les coins reculés du pays ou
D'abord ici, j'ai commencé avec une ONG qui s'appelle le collectif de diffusion d'information et d'appui aux femmes qu'on appelait CODIAF. Et j'étais dans les quartiers populaires de Kingabwa, J'étais dans les quartiers de Mombele, j'étais dans les quartiers beaucoup plus reculés. Et là-dedans, on a commencé à faire quand même un travail de proximité avec les femmes dans le maraîchage, dans la fabrication des savons, des salages de poissons. Et en donnant des petits crédits aux femmes pour qu'ils fructifient et qu'ils vendent.
Vous aviez un financement?
Au départ, non, c'était des cotisations entre nous. Puis bon, j'ai vendu beaucoup de mes histoires que j'ai ramenées en Europe pour appuyer les femmes. Et après, nous avons eu les créneaux de comprendre qu'il y avait aussi des financements qui appuient avec les ONG étrangères. Donc, nous avons pu mettre le contact avec ces ONG-là et nous avons montré notre travail aux ambassadeurs.
Vous
ici.
Recherchez quoi en faisant tout cela, Élise Mouimouzi?
Je cherchais, à l'époque, je pensais que les femmes méritaient plus. Et je me disais que c'était possible par l'économie que la femme puisse assurer le leadership, diminuer donc les violences au sein des familles et donner une position sociale aux femmes. Et avec la production, avec la participation aux frais de ménage, les femmes ont changé leur position sociale. Les femmes étaient battues. Parce que le matin, ils doivent demander du sucre, ils doivent demander du pain au mari, ils doivent demander du sel pour que les enfants puissent manger. Mais à la fin, vous sentez que les complications qui sont au sein du couple, c'est parce que l'homme aussi est dépassé. Il n'a pas d'argent, il est au chômage, et les enfants ont pillé les entreprises dans lesquelles il travaillait. Et là, nous avons appuyé ces femmes et nous avons vu que leur position sociale changeait au sein du ménage. Ça veut dire qu'on pouvait même lui poser la question « Maman, on est tous en banine les loups. Est-ce que ce que tous en a parcellé ?» Il y a pas à participer à la décision. En fonction de ce qu'elle aussi donne le moyen, elle parvenait même à donner l'argent de poche au mari, même l'argent de transport pour aller voir si la fonction publique a payé. Et tout le monde est au chômage. Et ça changeait vraiment la position sociale au sein du ménage. Et les femmes commençaient à avoir une voix. Et là-dedans, nous avons senti que ce n'était pas seulement un problème qui était à Kinshasa, c'était un problème qui était aussi lié à toutes les femmes à travers tous les pays. Et c'est comme ça que nous avons dit non, en commençant par travailler à la base, ce n'était pas seul, donc il y avait d'autres ONG qui étaient menées par des femmes, je pense à Diraf, je pense à Anne Kalonji, je pense à plusieurs femmes qui en même temps travaillaient avec moi, mais de façon parallèle et de façon commune lorsque nous devons partager les stratégies. À ce moment-là, nous avons compris que cette idée-là pouvait être partagée sur l'ensemble du pays et qu'on pouvait y amener un grand mouvement de femmes. Et nous sommes dit, bon, nous qui avions étudié, donnons quelque chose aux autres pour les amener quand même à gagner leur vie. Et nous avons créé, qu'on a fait, le Comité National Femmes et Développement a été créé dans ces réflexions-là, dans les partages de réflexions pour voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des femmes pour tout l'ensemble du pays, au niveau de la nation. Et là,
Interrompre un petit moment. On va revenir d'abord au collectif de diffusion d'informations et d'appui à la femme. Vous dites que vous avez aidé les femmes à fabriquer du savon.
Les savons, les poissons salés, les gens qui étaient dans le maraîchage, donc les légumes, les
produits. Alors c'était une réussite avec les femmes?
Oui, c'était une réussite, mais ça a été cassé en 1993. Un événement national va se passer dans le pays, ce qu'on appelle la réforme économique de M. Birindra, le premier ministre à l'époque. Et ce jour-là, lorsqu'on a fait les réformes, le pays, donc la monnaie, notre monnaie a dévalué au moins 3 fois sur la journée. Et les femmes, voyant ce qui était en train de se passer, sont allées pour acheter la marchandise. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et lorsqu'ils sont allés sur le marché, ils ont vu que le prix avait triplé. Et le même jour, ça changeait le matin, ça changeait à midi, à 16h, c'était un autre prix. Et ils se sont mis à acheter. Mais ils ont perdu de l'argent. Donc, la réforme a fait perdre de l'argent aux femmes. Et là, nous avons compris que c'était difficile, malgré nos efforts, nos petits efforts qu'on faisait à la base, il était difficile de changer quoi que ce soit si les femmes ne passent pas à un niveau supérieur, donc au niveau des décisions. Et nous avons commencé à créer d'autres réseaux, d'autres structures qui allaient réfléchir de quelle façon les femmes peuvent participer à un niveau beaucoup plus supérieur. Alors, c'est comme ça qu'on a fait, c'est comme ça que nous avons initié, avec le partage d'idées, d'analyses, nous sommes arrivés à créer qu'on a fait.
Vous étiez au nombre de 12 femmes.
Oui, 12 issues femmes.
Issues des différentes organisations féminines.
Oui. Dans la première élection, je sortirai secrétaire nationale de qu'on a fait la première année pour 2 ans. J'avais un mandat de 2 ans. Mais j'ai fini qu'on a fait, j'avais déjà fait 4 mandats.
Et pourquoi on renouvelait votre mandat? Parce que vous étiez la femme qu'il fallait.
Non, il y avait aussi d'autres femmes capables. Je t'ai dit qu'à l'époque, nous étions avec Marie-Ange Lukena, nous étions avec Saya, nous étions avec des femmes capables. Nous étions avec des femmes qui sont dans les ambassades aujourd'hui, des femmes qui sont au Parlement, des femmes qui sont dans le gouvernement et qui, toutes, nous étions capables d'assumer la direction de Conafed. Mais étant dans la technicité, donc j'étais vraiment au secrétariat déjà au départ. départ. Peut-être que j'avais beaucoup plus d'éléments, hein, d'éléments, de fait que je travaillais déjà avec le bailleur de fonds, que je savais aussi négocier. Les autres m'ont fait confiance et m'ont élu secrétaire permanente au niveau national. Et on a organisé 2 ans plus tard une autre assemblée. Je suis passé encore une autre assemblée. Je suis passé jusqu'à 4 mandats que j'ai fait au CONAFED. Et je suis parti. J'étais toujours dans le mandat parce qu'il me restait 3 ans. En venant à la CENI, j'étais sur un autre mandat, mais sur le mandat, il me restait encore 3 ans.
Le CONAFED avait pour mission de travailler en vue d'un changement de relation entre l'homme et la femme. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que lorsque nous avons commencé finalement à analyser les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, les différences sociales. Nous avons vu que l'homme et la femme, tous, ils naissent égaux. Quand ils sont petits, ils naissent égaux et les droits, ils reconnaissent ces droits-là. Alors, à ce moment-là, nous avons vu quelle a été maintenant la différence entre les hommes et les femmes sur le plan opérationnel. La différence vient tout simplement de la construction sociale. Ça veut dire que moi, je suis née fille. En étant fille, on me dit comme une fille. Je serai donc plus tard, on voit que ma fille, Élise, quand elle naît, elle va faire des études, après les études, elle va se marier. Et dans la coutume est rattrapée à ce moment-là où la croyance, je deviendrai une femme mariée, j'appartiendrai à quelqu'un d'autre, à une autre famille, je changerai de nom, je n'irai pas avec le nom de mon père, j'irai avec le nom de mon mari, etc. Et jusqu'à ce que je finis. Cette attitude, cette perception fait que j'ai des droits qui ne sont pas les droits de mon frère. Alors, quand j'arrive à la maison, sur le plan de l'éducation, on me demande, moi, de faire la lessive, de nettoyer, de préparer à manger, comme ma mère. On demande à mon frère, lui, il n'a pas le temps, il va jouer, il fait sa balle et tout ça. Quand il a fini, il fait ses devoirs. Conséquence, à la fin de l'année, il a les meilleurs résultats que moi parce qu'il a plus de temps d'étudier que moi-même en tant que fille. Alors, dans les orientations, si je fais le secondaire ou l'université, on va me dire, non, toi, comme tu n'es pas assez intelligente, tu vas faire maintenant le secrétariat ou des études de cycle court. Parce que mes parents ne réalisent pas qu'en me chargeant, en étant enfant, ils m'empêchent moi de devenir meilleur. Mais ils me disent qu'ils me préparent aussi à ma fonction future. Mais l'homme, comme c'est lui que dans la croyance africaine, on pense que c'est l'homme qui est responsable de la famille, c'est lui qui est le père de la famille, et c'est lui qui va perpétrer le nom. Il a d'autres atouts que moi, je ne reçois pas dans la famille.
Et donc le combat, c'était que la femme, la fille et le garçon aient tous les mêmes droits.
Filles et garçons, qu'ils aient les mêmes avantages, qu'ils aient les mêmes avantages dès le départ. Et que les parents aient cette conception-là. Si les parents n'ont pas cette conception, les parents vont éduquer les enfants dans la façon dont on nous a éduqués, dans la façon dont on a éduqué nos grands-mères, dans la façon où les choses se perpétuent tout le temps jusqu'à la fin de la vie.
Vous dites qu'ils aient les mêmes avantages et non les mêmes droits.
Les mêmes droits aussi.
Les mêmes droits et les mêmes avantages.
Oui. Les mêmes droits, les mêmes avantages, les mêmes devoirs, etc. Parce que, à ce moment-là, j'ai été prendre maintenant, si je saute un peu, j'ai été prendre du matériel de la CENI à l'aéroport. Et il y avait un cargo, Germany Cargo, qui est arrivé, 747 série 400, piloté par une femme. Tout le monde à l'aéroport a regardé, mais c'est pas possible. Une petite femme. Mais elle a eu l'avantage d'avoir des parents qui l'ont laissé faire les études de pilotage. Va voir si aujourd'hui, à notre époque, un enfant, une fille, va dire à la maman, moi je vais faire le code de pilotage, elle va dire, ah, toi fais autre chose ici. Donc ce ne sont pas les mêmes droits en définitive.
Alors, j'ai l'impression que les femmes cherchent une chose et son contraire. Vous voulez avoir, les femmes cherchent à avoir les mêmes droits et les mêmes avantages que les hommes. Entre-temps, elles-mêmes, elles se qualifient d'être des êtres fragiles. Comment vous pouvez avoir les mêmes avantages et les mêmes droits avec les hommes?
Non, c'est cette approche des rapports, d'analyse des rapports entre les hommes et les femmes, ce qui fait que cette approche-là, il intègre en même temps les coutumes, les croyances, les habitudes, mais c'est lié au sexe. Hein? C'est lié au sexe, c'est-à-dire à la fille, c'est lié au garçon. Hein? Et c'est déterminé par notre sexe. Mais dans le sexe, il reste fixe. Je suis une fille, je le reste, je ne peux pas changer ça. Il est né garçon, il reste, ça ne peut pas changer. Maintenant, c'est ce qu'on appelle genre. Le genre, c'est le type de rapport. Des rapports qui sont liés et dans lesquels on a construit, on a fait des constructions sociales. Que pour la fille, voilà ce qu'elle deviendra et voilà ce qu'on doit faire pour qu'elle devienne ceci. Comme elle sera mère, il faut la préparer à être une très bonne mère de famille. Comme le garçon sera responsable, il faut le préparer à devenir responsable. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans cette approche genre, l'étude du genre, c'est celui-là. Ce n'est pas une étude homme-femme, c'est une étude des rapports qui existent entre les hommes et les femmes qui ont été créés dans la société pour couvrir les hommes et les femmes différemment. Mais qui ont des conséquences directes dans la vie que les gens vont mener. Maintenant, nous jouons et nous travaillons pour que ça change.
Alors, Madame Elise Moïmouzi, vous êtes une grande militante pour la cause de la femme congolaise. Vous avez participé à plusieurs marches mondiales à travers le monde. Je m'excuse pour la répétition. Vous êtes parmi les organisatrices de la marche mondiale qui s'est tenue dernièrement à Bukavu. C'était quoi la raison de l'organisation ou le but de l'organisation de cette marche?
Oh, j'ai participé, c'est vrai, à différentes marches nationales et mondiales des femmes. Mais ici, il y avait déjà trois marches mondiales, dont la marche 2000, où j'ai organisé, j'ai coordonné ici à Kinshasa, et au niveau national, la marche 2000 et la marche de 2010. Pourquoi est-ce que nous avons fait la marche mondiale 2010? Entre 1996 et 2010, notre pays, 2010 c'est trop loin quand même, je pense que 2007, notre pays était vraiment en guerre. La guerre qu'il y a eu, c'est une panoplie de causes dans cette guerre, ça on n'y revient pas. C'est une guerre de ressources, c'est une guerre de ceci, de cela, mais c'est une guerre qui a fait beaucoup de dégâts pour les femmes. Beaucoup de femmes ont été violées, beaucoup ont perdu les enfants, beaucoup ont perdu leurs maris, les membres de famille à l'est du pays. Et comme la violence et les viols s'amplifiaient, et il fallait absolument que les femmes du monde entier s'élèvent pour dire non à cette situation, et il fallait le faire à l'est. Pourquoi à l'est? Parce que si tu regardes dans l'histoire de notre pays, je pense que l'est doit avoir un jour, on doit construire un monument pour l'est. Parce que si l'Est n'avait pas résisté, notre pays serait pris. Et nous avons dit, avec les conseils qui a décidé sur les lieux où on doit faire la marche mondiale, qu'il était important de ramener cette question au Congo pour faire un grand lobby des femmes sur le Congo. Alors à ce moment-là, ça n'engageait pas seulement les femmes, ça devait engager tous les pays, les hommes et les femmes du Congo, pour être en faveur de cette marche. C'est ainsi que nous sommes allés à Bukavu. Et nous sommes allés à Mwenga organiser la marche mondiale des femmes pour que justice soit faite pour ces femmes qui ont été violées pour la cause du pays.
Alors une marche qui a quand même été critiquée parce que vous n'avez pas associé ces femmes-là même qui ont souffert des viols, ces femmes-là qui souffrent même dans les villages qui ont été pillés, attaqués, c'était plutôt, disons, une marche des grandes dames, quoi.
Ah non, je pense que si vous avez vu Mwenga, il n'y avait pas que des grandes dames. À Mwenga, où nous avons été, le troisième jour, quatrième jour de la marche, nous avons été à Mwenga. Et à Mwenga, c'était vraiment pour signifier le symbole fort de cette marche. Donc, les lieux où on a enterré les femmes vivantes. Ça veut dire que lorsque vous faites une marche, vous devez capturer l'élément phare. L'élément phare de la marche, c'était le fait qu'on ait enterré des personnes vivantes comme ça. Et il fallait que le monde entier les sache, qu'on voit les lieux. Et ça, ce ne sont pas des grandes femmes. Les grandes femmes ont accompagné parce qu'ils avaient, tout le monde avait la douleur. Ce n'était pas une marche de tourisme ou d'exposition, mais c'est vraiment...
C'était l'impression qu'on avait quand même.
Non. Je pense que, évidemment, si vous êtes journaliste, mais bon, chaque personne peut faire la lecture de ce qu'il veut dans un événement donné. Mais nous, au fond de nous, nous avions cette souffrance au cœur de voir ce qui s'est fait et comment ça s'est fait sur notre pays et de façon très méchante pour des gens qui n'ont rien fait pour des innocents. Alors il fallait que justice soit faite pour ces femmes.
C'était une réussite pour vous, selon vous? C'était une réussite?
Selon moi, je peux dire oui parce que ça a mobilisé. C'est du côté mobilisation, nous avons... eu vraiment le grand succès d'avoir mobilisé autant de femmes dans une période assez difficile et dans une période très critiquée. Et il pouvait y avoir plus de femmes venant de l'étranger parce qu'on a eu 58 pays qui sont venus nous appuyer dans la marche. On pouvait avoir plus, mais nous avons eu d'autres événements qui sont venus compliquer notre marche, tel que le fait que les avions tombaient à gauche à droite, les parents qui n'ont qu'un seul enfant refusaient que les enfants ne viennent sur le pays. Et ils annulaient le vol de leurs propres enfants qui étaient prêts à venir nous soutenir dans la marche. Mais il y avait beaucoup de femmes qui sont venues du village pour participer à la marche. Il y avait aussi la première dame qui, par ses sentiments, est venue à la marche mondiale. Et nous avons remercié le président de la République parce que quand même, il a laissé venir sa femme à cette marche et appuyer les autres femmes. Et bon, personnellement, il a reçu nos doléances et nous pensons que les documents et les justices seront faits pour que ce côté-là soit paisible. Et c'est la raison pour laquelle, même dans notre travail actuel, nous insistons sur le fait que le contexte reste paisible. parce qu'on a trop souffert, on a trop perdu des êtres humains qui sont très valables. Il est important que les Congolais eux-mêmes se mettent debout pour dire non à ces phénomènes.
Et la prochaine marche, c'est pour quand?
C'est toujours les 5 ans qu'il y a une marche mondiale.
Donc en 2015.
15, oui, mais on n'a pas encore décidé dans quel pays elle va se produire.
Madame Élise Mouimouz, aujourd'hui vous êtes questeur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante. Comment vous avez fait pour arriver jusque-là? Vous avez travaillé, vous étiez dans la société civile.
Oui,
je suis membre active de la société civile.
Civil, ouais.
Aujourd'hui vous retrouvez à la CENI, ouais. Pour le compte du pouvoir.
Pour le compte de la nation, parce que je suis congolaise et je travaille pour ma nation.
C'est le pouvoir qui vous a proposé à la CENI ou c'est la société civile?
Je ne sais pas, j'ai été nommée, donc j'ai été appelée à aller faire mon devoir civique. Et je pense que ça, c'est la CENI, c'était une institution citoyenne animée par des personnes venant de la société civile. Au départ, lorsque nous avons créé la CI, c'était ça le leitmotiv de la CENI. Mais étant donné que nous étions dans une formule 1+4, le politique s'est impliqué dans la CENI, dans cette institution, parce qu'elle est très sensible. Et de ce point de vue, je pense que je suis la déléguée de la société civile, même choisie par le pouvoir. Je peux être choisie par l'opposition ou par le pouvoir, mais peu importe, mais je travaille au nom de ma nation.
Pourquoi on a porté le choix sur vous?
Peut-être par mon travail. Mon travail était visible, mon combat était réel, et c'est par ça que je suis arrivé à la Commission nationale indépendante. Aujourd'hui, je ne fais partie d'aucun parti, mais je suis de la société civile, et je pense que tous les acteurs sont de la société civile, parce que aussi d'abord société civile avant de devenir quelqu'un.
C'est une première expérience quand même de travailler dans une grande institution comme celle-là. Vous pensez que la tâche sera facile pour vous?
Et la CONAFED était aussi un grand mouvement national.
L'institution. Mais là, la CENI, vous allez organiser des élections pour le pays.
Oui, mais bon, je vous ai dit qu'elles sont passées aussi par les élections dans le Comité national Femmes et Développement. Et il y a toujours eu des élections. C'est vrai que l'ampleur est beaucoup plus grande parce que ça engage beaucoup plus d'acteurs que ce qu'on était avant. Donc, nous avons les acteurs politiques, nous avons les acteurs non étatiques. La CENI, c'est vrai, ça devient une grande ouverture à ce niveau-là. Et je pense que ce qui est important, c'est de bien faire son travail. Il n'y a rien qui nous effraie. Nous avons reçu de l'expérience au niveau de la société civile. Donc, personnellement, je suis à l'aise à la CENI.
Le travail se passe bien avec les collègues.
Oui, avec les collègues, il n'y a aucun problème. Le bureau, on essaie à 7, chacun dans son travail. Et on travaille en équipe.
Il y a des gens qui sont un peu sceptiques quant au travail de la CENI. On dit que la CENI est partisane, elle travaille pour le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui pensent qu'elle n'est pas indépendante?
La CENI, elle est indépendante. La CENI, elle travaille pour la nation. La CENI, elle ne se mêle pas des discussions politiques que les gens essaient de placer dans ces choses. Mais je pense qu'elle est un organe technique d'abord. La CENI est un organe technique pour organiser les élections. Nous savons que les élections, c'est des domaines très sensibles. Et nous rassurons donc la population que, avec ça, il n'y a personne qui peut jouer à ce niveau-là de ce travail technique. Alors, parce que la CENI, elle est indépendante et que la CENI, c'est un outil technique qui va amener les décideurs au pouvoir, la CENI ne décide pas. La CENI va certifier ce que les acteurs ou les électeurs auront proposé à la CENI.
Élise Mouimouz, nous sommes à la fin de notre entretien. Vous rassurez aussi que le 28, on aura les élections?
Bien sûr, rien ne nous empêche de faire les élections à la date précise du 28.
Vous êtes prêts? Je dis, la CENI est prête?
Oui, la CENI est prête et la CENI insiste pour dire à la population que la CENI reste indépendante. Les élections seront libres, elles seront démocratiques, elles seront transparentes, crédibles et surtout apaisées. Et que tous les acteurs qui interviennent, y compris les électeurs, y compris les autres qui ne sont pas électeurs, mais qui vont s'abstenir. Tout le monde doit travailler pour que ce travail reste apaisé et pour que le contexte reste apaisé. Il faut que chaque parti politique se mette au travail pour travailler avec les militants dans le programme d'éducation civique et citoyenne. Et dans les dents, nous allons pouvoir accepter, et c'est chaque leader qui demande à ses militants d'accepter les résultats tels que. Parce que notre pays, ce n'est pas un pays de théâtre. C'est un pays qui est décidé par les Congolais eux-mêmes de ce qui va nous arriver. Et ce qui va nous arriver, ça sera toujours des choses positives, parce que nous avons déjà quitté la formule 1 plus 4.
Élise Mouimouzi, je vous remercie.
Merci, madame.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Élise Mouimouzi Kinja, grande militante pour la cause de la femme congolaise. Elle est ancienne secrétaire générale du Comité national Femmes et Développement et actuellement elle est questeur adjoint à la Commission électorale nationale indépendante. Merci à Héritier Sidia Kala qui est à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.